VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 25 novembre 2019. En direct de Washington, Idriss Assédoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Élection présidentielle hier en Guinée-Bissau. Le camp du président sortant parle déjà de fraude.
Rencontre hier à La Haye entre deux anciens frères ennemis ivoiriens, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé.
En République démocratique du Congo, au moins 26 morts dans le crash hier matin d'un petit avion de ligne à Goma.
Ici aux États-Unis, l'ex-maire de New York, le milliardaire Michael Bloomberg, officiellement candidat à la présidentielle de 2020.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Les Bissau-Guinéens ont voté hier dimanche pour élire leur nouveau président et espérer tourner la page de l'instabilité chronique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'AFP a signalé quelques échauffourées entre militants de différents camps, suivies de l'intervention de la police dans certaines localités. Et des accusations de fraude ont été lancées par le camp du président sortant, José Mario Vage. Mais selon notre correspondante sur place, Ndarika Ling-Lopi, de l'avis des observateurs internationaux, le scrutin s'est globalement bien déroulé.
Le chant du coq pour accueillir les premiers citoyens en Guinée-Bissau. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche dès 7h du matin. Dans ce premier bureau, chaque électeur a attendu patiemment son tour pour voter.
Tout s'est bien passé, je suis content. Depuis que le vote a commencé, il n'y a pas eu de problème.
Et ce calme, nous l'avons ressenti dans tous les lieux de vote où nous sommes allés à Bissau. Un sentiment partagé par le président du bureau 37-1 de la capitale, Carlos Najak.
En Guinée, il n'y a pas de violence. Des frères ne soutiennent pas le même candidat, mais ils coexistent quand même. Ce que les gens veulent, c'est un candidat qui se bat pour le pays.
Près de 700 000 Bissau-Guinéens étaient appelés à voter. Pas encore de taux de participation, mais l'engouement pour l'élection est bien là et sans accroc majeur. Un constat dressé par OneEP, un réseau composé notamment de 6 organisations civiles bissau-guinéennes. Julien Oussou en charge de la coordination du processus électoral.
Nous avons aussi remarqué que le processus s'est déroulé sans interruption. Il y a eu quelques cas isolés d'interruption dus au fait que, par exemple, un citoyen résiste à ce qu'on coupe sa carte parce qu'il a fini de voter, parce que ne comprenant pas que c'est cela qu'il fallait faire, un déficit d'information et de communication en amont. Globalement, de notre point de vue, le processus s'est déroulé correctement.
Côté candidat, des soutiens du président sortant, José Mario Vage, ont dénoncé des fraudes du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, et son candidat, Domingo Simões Pereira, n'ont pour leur pas répondu. Les résultats du premier tour devraient être communiqués en début de semaine. Ndarika Ling-Lopi à Bissau pour VOA Afrique.
Rencontre hier à La Haye entre l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, et Charles Blé Goudé, l'ex-chef des jeunes patriotes, en liberté conditionnelle dans l'attente d'une décision de la Cour pénale internationale. Cette rencontre que M. Soro, ex-chef rebelle et candidat à la présidentielle de 2020, vient d'avoir avec M. Blé Goudé, a été placée sous le signe de la recherche de la paix. Patrick Nouimana.
La rencontre entre ses anciens frères ennemis intervient symboliquement près de 10 ans après la crise post-électorale de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire qui a fait 3000 morts. Et à chacun à une époque dirigé la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESCI, le puissant syndicat étudiant, les deux hommes ont exprimé leur compassion et leur solidarité au peuple de Côte d'Ivoire pour les traumatismes et les nombreux préjudices subis au cours de la crise. Ils s'engagent à œuvrer pour une réconciliation sincère, conviennent que la réconciliation doit s'honorer de vérité et de repentance, gage de tout pardon. Il réaffirme la nécessité de privilégier la voie du dialogue, de la négociation et de la concertation dans la résolution des conflits, poursuit le texte. M. Soro a annoncé en octobre sa candidature à la présidentielle de 2020 après avoir rompu les ponts avec le président Ouattara et la coalition au pouvoir Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, en début d'année. Il a multiplié les gestes envers ses anciens adversaires politiques, demanda pardon à Laurent Gbagbo ou en s'entretenant avec l'ancien président Henri Konan Bédié, lui aussi passé du RHDP à l'opposition.
En République démocratique du Congo, au moins 26 personnes sont mortes dans le crash hier matin d'un petit avion de ligne. L'appareil s'est écrasé 2 minutes après son décollage sur une maison d'un quartier populaire de Goma, dans l'est du pays. Il devait se rendre à Beni via Butembo, à 350 km au nord de Goma. Des détails avec Eric Manirakidza.
L'accident a tué les 19 personnes à bord, dont deux membres d'équipage du petit porteur de la compagnie Buzibi qui dessert Goma, Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu. Le vice-ministre des Transports, Jacques Yuma Kipuya, a indiqué que 7 personnes au sol ont également été tuées dans la chute de l'avion de type Dornier 228 sur une maison proche de l'aéroport de Goma. Il pourrait s'agir des membres d'une même famille. D'autres sources locales à Goma parlaient dimanche soir d'un bilan plus élevé, entre 27 et 29 morts, avec des blessés hospitalisés. L'appareil s'est écrasé sur le quartier Birere Mapendo peu après 9 heures à côté de l'aéroport construit près de la frontière avec le Rwanda au milieu de zones densément peuplées. Une première vidéo sur les réseaux sociaux a montré l'avion en flammes et des habitants qui tentaient d'éteindre l'incendie avec des eaux d'eau avant l'arrivée de 2 camions de pompiers envoyés par la MONUSCO. Selon un technicien de la compagnie sur le lieu du crash, cité par le site d'information actualité CD, l'avion aurait connu des problèmes de moteur dans les jours précédents.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'affaire ukrainienne, Devin Nunes, le principal membre républicain de la commission enquêtant sur une éventuelle procédure de destitution contre le président américain Donald Trump, a refusé hier de répondre aux questions sur sa rencontre avec l'ancien procureur ukrainien Viktor Chokin. Selon l'avocat d'un collaborateur inculpé de Rudy Giuliani, l'avocat personnel de M. Trump, Devin Nunes aurait rencontré M. Chokin en 2018 à Vienne pour obtenir des informations sur Hunter Biden, le fils de l'ancien vice-président américain. M. Nunes n'a rien dit à ce sujet pendant qu'il menait la défense du président Trump, accusé par les démocrates d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour l'ouverture éventuelle d'une enquête sur le démocrate Joe Biden, un rival possible à la présidentielle de 2020.
Et l'ex-maire de New York, le milliardaire Michael Bloomberg, s'est lancé dimanche dans la course à la Maison-Blanche, relançant avec sa candidature la compétition déjà serrée pour l'investiture démocrate. De nouveau, Eric Manirakidza.
« Je suis candidat à la présidentielle pour battre Donald Trump et reconstruire l'Amérique », a déclaré sur son site internet l'homme d'affaires de 77 ans. L'entrée en course de M. Bloomberg n'a pas suscité de réaction immédiate de Donald Trump, qui s'est contenté de retweeter des critiques de sympathisants républicains contre l'ex-maire de New York. Son immense fortune acquise dans l'information financière, quelques 50 milliards de dollars, fait de lui un prétendant apte à chambouler la course, encore très ouverte avec 18 candidats prêts à défier l'actuel locataire de la Maison-Blanche en novembre 2020, sans favori évident. Nous ne pouvons pas nous permettre 4 années supplémentaires d'action immorale et irréfléchie de la part de Donald Trump, a justifié M. Bloomberg dimanche. Il représente une menace existentielle pour notre pays et nos valeurs. S'il remporte un nouveau mandat, nous pourrions ne jamais nous en remettre, a ajouté le responsable à la tête de la métropole de New York de 2002 à 2013. Très actif dans la lutte contre le changement climatique, contre la prolifération des armes à feu ou pour la santé, Michael Bloomberg avait annoncé en mars qu'il renonçait à se présenter pour, entre autres, ne pas saper les chances de M. Biden. Son revirement apparaît donc comme un signal clair qu'il doute sérieusement des chances de Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama.
Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a demandé et obtenu la démission du chef de la US Navy, citant la manière dont Richard Spencer avait traité le cas d'un soldat d'élite accusé de crimes de guerre en Irak en 2017. Le soldat, Edward Gallagher, avait été accusé de meurtre, mais déclaré coupable d'avoir posé à côté du corps d'un adolescent du groupe État islamique. Il avait en conséquence été dégradé d'un rang, une sanction qui réduisait sa solde et sa retraite. Le président Donald Trump est intervenu pour gracier le soldat et le rétablir dans son grade et dans ses droits. Dans une lettre publiée par les médias, M. Spencer a exprimé clairement son désaccord profond avec le président Trump.
À Hong Kong, les candidats pro-démocratie verront une victoire écrasante aux élections locales. Un message sans ambiguïté à Pékin sur le soutien des habitants à un mouvement de contestation sans précédent dans l'ex-colonie britannique. Alors que le dépouillement était toujours en cours lundi matin, le ministre chinois des Affaires étrangères a rappelé que Hong Kong fait partie de la Chine, quel que soit le résultat des élections locales. Toute tentative visant à semer la pagaille à Hong Kong ou à entamer sa prospérité et sa stabilité est vouée à l'échec, a-t-il averti depuis Tokyo. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nadine Talani.
Deux actionnaires minoritaires historiques d'Orange Niger ont racheté la filiale du groupe de télécommunications français Orange pour un montant non précisé. Les nouveaux repreneurs sont Rainbow Invest de l'homme d'affaires nigérien Mohamed Rissa et Greenlink Communications du malien Mokhtar Thiam. Zamanicom, nom de la nouvelle société, annonce avoir finalisé l'acquisition de l'intégralité de la participation de 95,5% détenue par Orange Middle East Africa dans Orange Niger. Le Sénégalais Souleymane Diallo a été nommé directeur général de Zamanicom. La semaine dernière, la plupart des métaux de base ont perdu du terrain avec en tête de liste le nickel et le zinc qui ont perdu chacun environ 3%. Les analystes pointent le regain de tension entre les États-Unis et la Chine. Le nickel valait 14,540 $ la tonne contre 14,975 $ le vendredi d'avant, alors que le zinc valait 2309,50 $ la tonne contre 2380. L'once de platine s'échangeait à 888,13 $ contre 890,80 $ 7 jours plus tôt. Pour sa part, l'or est resté stable sur la semaine à 1465,92 $ l'once à Londres contre 1468,30 $ le vendredi précédent.
Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Mondial de beach soccer 2019 au Paraguay, football de plage et deux sélections africaines y prennent part.
Oui, il s'agit du Nigeria et du Sénégal, champions d'Afrique. Après leur défaite inaugurale, les deux équipes ont connu de fortunes diverses lors de leur seconde sortie. Les Nigériens ont essuyé un revers 5-6 contre Oman. En revanche, les Sénégalais se relancent grâce à leur belle victoire de 7-2 face à la Biélorussie.
Jour africain de l'année, la CAF a dévoilé hier la liste des 30 nominés.
Et c'est sans surprise, on retrouve parmi eux les 5 nominés africains pour le ballon d'or France Football. Il s'agit du Gabonais Pierre Eric Aubameyang, des Sénégalais Kalilou Koulibaly et Sadio Mané, de l'Algérien Riyad Mahrez et de l'Égyptien Mohamed Salah. Le nom du vainqueur sera connu le 7 janvier prochain en Égypte.
Football toujours avec le tournoi UFOA de la zone A des moins de 20 ans en Guinée.
La deuxième édition de ce tournoi a démarré hier à Conakry. La première affiche a été remportée par la Guinée pays hôte face à la Mauritanie, score 1-0. Le second match de ce groupe A a vu la nette victoire du Sénégal 4-1 devant la Sierra Leone. Aujourd'hui, place au premier match du groupe B qui va mettre aux prises la Gambie au Mali.
À présent, le point sur quelques championnats africains en RDC. On a eu droit à deux derbies.
À Kinshasa, pas de vainqueur entre le Daring Club Motéba Pembe et la SV Club, score 1-1. Match nul également à Lumumbashi, 2-2 entre le FC Lupopo et TP Mazembe. Les Corbeaux gardent toujours la première place devant FV Club. Motéba Pembe et Lupopo complètent le classement. 9e journée au Cameroun. Le leader Coton Sport de Garoua s'est repris en s'imposant sur la pelouse de Fovu de Baram 2-0. Par contre, Babutos de Munda, second au classement, s'est incliné 1-0 devant Edin Sport. En Côte d'Ivoire, Afad et FC San Pedro partagent toujours la première place au classement à l'issue de la 7e journée. Les deux clubs ont battu respectivement 2-1 Williamsville et 1-0 Assi Dambengourou.
Au Bénin, Essaé conforte sa première place au terme de la 6e journée de la Ligue 1.
Les étudiants, grâce à leur victoire 1-0 devant Dynamo de Parakou, comptent 3 points d'avance sur l'association sportive du port autonome de Cotonou qui a renversé Kraké 4-2 et Aema victorieux de Real Sport 2-0. Jacques et Buffle, accrochés respectivement par Béké FC et JSP, complètent le podium. À noter, la première victoire de la saison de l'Est sonnait de Boycon 1-0 face à UPI ONM et de Dragon de Lemay sur la pelouse d'Énergie FC de la SB2E. Et puis, du basketball pour finir, la NBA est avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Dallas et Houston 137-123, Brooklyn et New York Knicks 103-101, Sacramento et Washington 113 à 106, Denver et Phoenix 116 à 104, et les Clippers et la Nouvelle-Orléans 134 à 109.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, au moins 26 personnes ont donc été tuées dans le crash d'un petit avion de ligne. Hier à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, cet avion de la compagnie privée Bizibi devait se rendre à Beni et Butembo, au nord de Goma. Une panne technique serait à l'origine de l'accident. Notre correspondant sur place, Charlie Kasereka.
L'appareil s'est écrasé vers 8h30 au décollage sur une maison au quartier résidentiel Mapendo, à côté de l'aéroport, construit près de la frontière avec le Rwanda, au milieu d'une zone densément peuplée. L'avion transportait 19 personnes, dont des membres de l'équipage. Outre les passagers, 7 personnes de la même famille et habitants Goma figurent parmi les victimes de la chute de l'avion. Alain Bahati raconte.
L'avion atterrit au-dessus de la maison. Alors en bas, il y avait des enfants et juste après atterrissage, ça commençait à se brûler. On n'a pas encore un nombre juste, mais il y a eu des vingtaines. Parce que depuis le crash jusqu'à 7h, on est en train d'enlever les corps.
Parmi les passagers victimes de l'accident de Goma, figure la coordinatrice d'une association de défense des droits des femmes, Mapendo Zawadi. Des habitants du quartier Birere observent impuissamment la carlingue de l'avion encore fumante, encastrée dans les murs d'une maison. Kininga Edi estime que l'aéroport devrait être délocalisé loin de la ville.
Mon point de vue, c'est quoi? Il faudrait qu'il y ait vraiment un suivi sur les services techniques de nos aviations. Et puis, avec l'évolution de la ville, on devrait normalement maintenant délocaliser, parce que quand il est devenu aéroport international, on devait prendre les précautions de délocaliser cet aéroport, juste pour épargner les vies humaines. Si jamais on ne prend pas vraiment les précautions, et la population va continuer toujours à subir les sortes de crash ici à Goma.
Cet avion transportait aussi de l'argent d'une banque locale qui voulait alimenter ses agences au nord de Goma, capitale provinciale. Pour éteindre l'incendie et récupérer les corps des victimes, la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, a envoyé des camions de pompiers en renfort des équipes congolaises. Le 10 octobre dernier, un Antonov 72 s'est écrasé dans le centre du pays après avoir décollé de Goma. Il transportait des équipes d'appui logistique du président Félix Tshisekedi qui rentrait le même jour d'un déplacement dans l'est du pays. Charlie Kasereka pour VOA Afrique Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Togo, retour ce matin sur la Semaine mondiale du bon usage des antibiotiques qui a eu lieu du 18 au 24 novembre. Cette semaine a été instituée pour mener des actions visant à réduire la résistance aux antimicrobiens, la RAM, dont les antibiotiques. À Lomé, pharmacien, chirurgien dentiste, médecin prescripteur et vétérinaire se sont penchés sur la question. Notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Les antibiotiques étaient demandés pour des maux de tête, des maux de ventre, de la fatigue.
C'est le constat fait dans les pharmacies au Togo. L'utilisation anarchique des antibiotiques a été la thématique abordée par les professionnels de la santé, aussi bien humaine qu'animale. À cette table ronde, les médecins prescripteurs, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens et les vétérinaires ont exposé la problématique de la RAM, la résistance aux antimicrobiens, telle qu'elle se pose à leur niveau. Professeur Munero Salou, point focal pour le suivi de la RAM au Togo, nous fait un bref aperçu des échanges.
Le chirurgien a dit, quiconque a mal à la dent qui se rend à la pharmacie, pharmacien, je vous en prie, donnez-lui juste un antidouleur et référez-le vers le spécialiste. Les vétérinaires ont dit la complexité qui est la leur quant à la prescription des antibiotiques selon qu'on soit sur les animaux à cycle court ou à cycle long. Et les pharmaciens nous ont partagé leur expérience. Pas d'ordonnance, pas d'antibiotiques. J'ai entendu quelqu'un a dit, il faudra peut-être même sanctionner.
Selon l'enquête Un jour donné, réalisée en décembre 2018 dans 9 formations sanitaires dans le pays, dont 2 CHU, sur 713 patients hospitalisés, 70% avaient reçu un traitement antibiotique et la molécule la plus prescrite est de 3e génération. Cette enquête montre qu'aucun patient n'a été mis sous antibiotiques sous la base d'un test de laboratoire. L'usage inapproprié et abusif des antibiotiques a des conséquences assez dangereuses. Face aux effets dévastateurs de la rame, des restrictions sont faites quant à l'utilisation des antibiotiques au niveau de la médecine animale. Docteur Kossima Labo, président de l'Ordre des vétérinaires du Togo.
Nous faisons tout pour interdire ce qu'on appelle une antibioprévention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la maladie, mais on essaie d'utiliser l'antibiotique. Or, c'est justement cette façon de faire qui entraîne des problèmes de résistance. Et parfois, en médecine vétérinaire, on utilisait les antibiotiques comme des facteurs de croissance. Et aujourd'hui, c'est formellement interdit.
Ayant en ligne de mire les mêmes objectifs que les vétérinaires, les pharmaciens dans les officines ne vendent plus les antibiotiques sans une prescription médicale. Docteur Dimiline Badombena Wantanimo est pharmacienne.
Nous voulons sensibiliser à un meilleur usage de ces médicaments-là parce que nous avons remarqué qu'il y a un abus et la population peut s'exposer à des risques pour sa santé. Voilà pourquoi nous demandons plutôt que lorsque la population vient en officine, qu'elle soumette son besoin de santé et le pharmacien, dans la limite de ses compétences et de ses connaissances, jugera du médicament utile pour pouvoir effectivement soulager ou jugera de l'orienter vers une structure de santé pour une meilleure prise en charge.
Ces spécialistes ont fait des recommandations au nombre desquelles l'amélioration des protocoles de prescription, la collaboration entre les professionnels et la sensibilisation de la population sur les dangers de l'utilisation anarchique des antibiotiques. Les participants ont insisté sur la qualité de la formation. Nous retrouvons le professeur Munero Salou.
L'intégration de modules d'enseignement de la rame dans les curricula de formation, aujourd'hui, c'est une prescription des différents plans d'action. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons décidé de commencer à sensibiliser dans le monde universitaire et en proposant même une unité d'enseignement libre sur la résistance.
La problématique de la rame est indéniablement reliée au phénomène des médicaments de la rue, soulignent les experts. Ils recommandent d'intensifier la lutte contre les médicaments de rue, ce qui constituera une bataille gagnée dans la guerre contre la résistance aux antimicrobiens. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Après 4 ans d'interruption, le Burkina Faso a organisé ce week-end la 15e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, une édition entièrement dédiée aux forces de défense et de sécurité au regard des attaques terroristes que le pays subit depuis 2016. Pour ces écrivains appartenant aux forces de défense et de sécurité, la plume peut aider à relâcher les tensions. C'est d'ailleurs l'objectif recherché par le gouvernement en organisant la foire, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Lamine Traoré.
Nous sommes ici au pavillon Soleil Levant, l'un des grands pavillons du CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Des centaines de stands sont dressés. C'est la philo, la plus grande foire du livre du pays. Contexte sécuritaire oblige. Lors de cette foire, on parle cette année de paix, de sécurité et de cohésion. Et la part belle est faite aux écrivains militaires.
Nous avons plusieurs œuvres que nous présentons. Nous sommes plusieurs auteurs.
Le commandant de gendarmerie, William Kombari, écrit sur les concepts de paix et de tolérance.
Je traite notamment des thèmes de société et à la lutte contre la discrimination et il y a la promotion de la tolérance. Donc, à travers nos œuvres, nous essayons de sensibiliser les populations à accepter les autres dans leurs différences.
Lui aussi est écrivain. Le commandant Alain Sara pense que la littérature, la culture en général est un moyen de lutte contre l'extrémisme violent.
Face à ce que nous vivons, la culture reste une arme efficace comme les autres armes qui sont utilisées.
Tantôt sur le front, tantôt plongé dans l'écriture, il n'est pas exclu que ces auteurs se penche un jour sur l'histoire actuelle du Burkina, marquée par le terrorisme. Le commandant de gendarmerie, William Kombari.
Il est conseillé à tous les cadres de faire de la production pour les générations à venir. Sûrement à la fin de la carrière, on fera un retour sur toutes les situations qui nous ont éprouvées, afin de tirer les leçons et permettre aux générations à venir de faire mieux face à ces différentes difficultés.
Un avis que ne partage pas totalement le commandant Emmanuel Zungrana, aussi auteur de plusieurs œuvres.
Vous savez, en la matière, il ne faut pas se précipiter parce que le terrorisme est un phénomène qui évolue. Les modes d'action, les modes opératoires évoluent voilà, de façon très très rapide. Et il faut éviter de publier un ouvrage qui va être très vite dépassé.
Les autorités espèrent que les auteurs, surtout ces militaires, vont davantage écrire dans le sens de la paix et de la consolidation. Abdoul Karim Sango est le ministre de la Culture.
Nous souhaitons donc que, au détour de cette 15e édition, nous ayons plus d'écrivains engagés à écrire pour la construction d'un monde de paix, d'un monde de sécurité. C'est pour ça que nous avons mis les forces de défense et de sécurité au cœur.
Les portes de cette 15e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou se sont refermées hier, avec l'espoir que les auteurs, et particulièrement les militaires, vont davantage se pencher dans la quête de la paix et de la sécurité. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
L'hymne national du Niger va bientôt être modifié ou carrément changé. C'est ce qu'ont décidé les autorités du pays. Certains passages de l'hymne actuel, qui date de 1961, font en effet polémique. Pour ce faire, un comité d'experts a été créé. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
La décision est fortement saluée par les citoyens.
Nous sommes vraiment fiers que cela soit une réalité.
Je crois que c'est une très bonne chose à partir du moment où notre hymne est d'abord notre unité. Et en principe, cette dernière doit être le reflet de notre histoire.
On doit complètement changer l'hymne national dans sa globalité parce que ça ne répond pas aux réalités socio-culturelles du pays.
Le comité d'experts mis en place va travailler sur la base des propositions. Un appel a été lancé dans ce sens par le ministre de la Renaissance culturelle Assoumana, Malam Issa.
Changer l'hymne national est un projet citoyen. Il engage certes le gouvernement qui en a la responsabilité, mais il engage les citoyens tout entier. Et donc nous avons décidé que ça soit un programme participatif, inclusif. Chaque Nigérien qui se sente capable d'apporter sa contribution en proposant un hymne ou bien en proposant des modifications des paroles de l'hymne existant, sa contribution est la bienvenue. Le comité va la mettre dans le panier des propositions et on va les examiner pour qu'au sortir, on puisse mettre tout ensemble, avoir un hymne modifié ou totalement un hymne rénové.
Beaucoup de passages du texte de l'hymne actuel font polémique depuis des années. Cheibou Mamane, un des experts, membre du comité, revient sur les principaux.
Vous avez par exemple le paternalisme et le colonialisme. Lorsqu'on dit dans l'hymne « Soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle », ça c'est véritablement colonialiste. Un autre aspect négatif de notre hymne national actuel, la nigérienne, eh bien c'est que ça véhicule le racisme. Lorsqu'il dit des expressions comme les glorieux accents, une race sans tutelle, eh bien cela semble faire référence à la race nègre, avec tous les préjugés, tous les stéréotypes, n'est-ce pas, qui entourent la race nègre. Ça, c'est purement négatif. La musique aussi comporte beaucoup d'insuffisances. Donc, nous sommes aujourd'hui 60 ans après. Évidemment, nous ne pouvons pas continuer à accepter, disons, cette situation.
En rappel, c'est en 1961 qu'un écrivain français a écrit les paroles de la Nigérienne. Deux autres Français, auteurs compositeurs, ont composé la musique qui l'accompagne depuis ces années. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOAAfrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Tommy Pollock. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.